Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V pour différent, extraordinaire et visionnaire. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance dans l'univers de l'innovation et des technologies en général. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou du quotidien d'Estem, une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée afin d'en comprendre tous les éléments avant de commencer à dev. Ce podcast est rendu possible par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale.
Créer un site e-commerce, c'est plonger dans un univers complexe. Intégrer des paiements sécurisés, gérer les stocks en temps réel, personnaliser l'expérience utilisateur, optimiser le SEO et gérer la logistique des livraisons. Chacune de ces étapes représente un véritable défi technique et stratégique. Mais il y a une solution qui change la donne, Shopify. Cette plateforme transforme la complexité en simplicité. Avec Shopify, vous pouvez facilement configurer votre site, intégrer des systèmes de paiement, gérer les stocks, créer des parcours clients personnalisés et optimiser votre référencement, tout ça en simplifiant la logistique. Si vous êtes prêt à révolutionner votre commerce en ligne, visitez shopify.fr/ifttd et commencez à construire votre succès e-commerce avec facilité. Shopify, c'est bien plus qu'une plateforme, c'est votre partenaire de croissance en ligne.
Vous le savez, mais il y a une question rituelle dans ce podcast. Après presque 30 épisodes, je peux vous dire que 2/3 des devs préfèrent la tabulation à l'espace. Quelle est la valeur de cette stat? Comment est-ce qu'on peut assurer la pertinence de mes données? Si je posais la même question à absolument tous les devs du monde, mon analyse serait certes plus fiable, mais quel type d'information je pourrais aussi en tirer? Bref, comment peut-on donner de l'intelligence à de la donnée? Et pour apporter de l'intelligence dans ce podcast, je reçois aujourd'hui Claude-Éric. Claude-Éric, bonjour.
Bonjour.
Alors Claude-Éric, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas?
Avant de me présenter, je vais dire que je suis choqué par cette statistique et que c'est vraiment pas possible et qu'il faut faire quelque chose dans l'éducation des développeurs de ce pays. Donc je m'appelle Claude-Éric Mars, je suis le CTO chez Craft AI et je suis partie de l'équipe fondatrice de la société qu'on a fondée il y a 4 ans et demi à peu près maintenant.
Ok. Avant de fonder Craft AI, est-ce que tu étais déjà dans le monde de l'intelligence artificielle?
Alors, oui. Alors, la version simple est oui. Je suis ingénieur. J'ai été diplômé en 2006, ce qui ne me rajeunit pas maintenant. Et en fait, depuis cette date-là, à peu près en continu, j'ai bossé dans le domaine de l'IA, dans des domaines assez différents au fur et à mesure des expériences. J'ai notamment pas mal bossé dans le domaine de la simulation et notamment dans le domaine de la simulation de foule pour des simulations d'entraînement, mais aussi pour le cinéma, pour les effets spéciaux, pour le jeu vidéo. Et du coup, après, j'ai étendu mon spectre de compétences vers le machine learning, ce qu'on fait aujourd'hui chez Craft AI.
Ok. Alors donc on se voit justement pour parler d'AI et de machine learning aujourd'hui. Est-ce que du coup dans un premier temps, peut-être justement faire un très grossier, quelle est la différence du coup entre ce qu'on avait appelé intelligence artificielle et machine learning?
Alors l'intelligence artificielle, alors il y a plein de gens qui pensent que c'est très mal nommé, mais c'est un champ de recherche qui a été fondé dans les années l'été 56 par plein de gens qui ont maintenant des cheveux gris, une partie est mort, dans une conférence qui est assez connue qui s'appelle la conférence de Dartmouth, des gens comme Shannon, Newell, Minsky, McCarthy et leurs amis, et en fait leur objectif c'était de dire ok, comment on peut faire des tâches qui nous paraissent intrinsèquement humaines à des ordinateurs, et donc du coup ça a donné lieu à plein de sous-domaines de recherche et plein de sous-domaines d'applications pour résoudre une partie de cette problématique-là. Donc il y a des choses qui sont communes dans le monde du développement, des choses comme gérer des machines à état et gérer la transition de machines à état. C'est des domaines de recherche qui viennent et c'est des concepts qui ont été inventés par les gens qui bossaient sur l'intelligence artificielle, naviguer dans des graphes, implémenter des parseurs de langage, des grammaires, etc. C'est des trucs qui viennent viennent du domaine de l'intelligence artificielle, des moteurs de recherche, des graphes de connaissances, ça c'est l'intelligence artificielle aussi, et le machine learning c'est un des domaines de l'intelligence artificielle. Il se trouve que c'est le domaine qui a le vent en poupe en ce moment, même si en fait si on regarde là récemment, en fait, le truc qui redevient à la mode, c'est d'hybrider du machine learning avec d'autres... d'autres stratégies, comme par exemple des bases de connaissances, etc. Donc ouais, machine learning, c'est une partie du monde de l'intelligence artificielle. Alors il y a une espèce de blague chez les gens qui font de l'IA, qui est que tout ce qu'on appelle de l'IA, c'est en fait les trucs qui marchent pas encore vraiment et qui sont pas devenus de l'informatique traditionnelle. Et une fois que ça devient commun, en fait, plus personne considère que c'est de l'IA. Alors bon, c'est je pense qu'il y a plein de gens qui pensent pas ça, mais toujours est-il que du coup c'est toujours un concept un peu mouvant et un peu flou. Le machine learning, c'est relativement clair ce que c'est et à quoi ça sert.
De ce que j'avais cru comprendre, le machine learning, c'était surtout de la compréhension d'un volume d'informations, donc c'est plus de l'analyse. Là où l'IA, en fait, c'est un ensemble d'algorithmes qui aura une capacité à prendre une décision, mais qui est pas forcément basé sur un historique de données. Est-ce que c'est ça, ou du coup au final
Ouais. Alors il y a un truc, il y a une des définitions de l'IA qui dit l'IA, c'est tu perçois ton environnement, donc tu es capable de le faire comprendre à un programme informatique. Après, tu prends une décision sur ce que t'as compris et ensuite t'agis sur ton environnement. Donc c'est la boucle perception décision action. Des gens qui ont dû faire vaguement des cours en robotique ou en IA à la fac ont déjà vu. Donc après le machine learning, en fait, l'idée c'est de dire, ben en fait, c'est hyper compliqué de définir ces modules de perception, de décision, d'action. Et du coup, on va le faire par l'exemple, ou en tout cas en utilisant des données qu'on a captées par ailleurs pour essayer de construire ces briques ou des sous-briques ou une partie de ce raisonnement-là à partir des données. Là où toute une catégorie de choses dans le domaine de l'IA, et notamment dans le domaine de la simulation de foule, comme que j'ai fait précédemment dans l'IA pour de la simulation, où en fait l'enjeu c'est d'aller voir des gens qui savent, donc typiquement un game designer dans le domaine du jeu vidéo, parce que lui il sait ce qu'il veut avoir, et de lui mettre ses idées à l'intérieur d'un système, et du coup l'intelligence vient du fait que il va pouvoir avoir des idées peut-être sur le comportement haut niveau, puis ensuite peut-être qu'il y a un mec spécialiste de la biomécanique qui va avoir des idées sur comment ça se passe le mouvement d'un corps humain, et en fait on essaie de créer un système qui arrive à combiner les idées, les objectifs de l'un et de l'autre pour avoir un truc qui est autonome et qui se comporte comme ce que les gens ont décrit qu'il devait se comporter. Donc c'est, on prend un expert, on le met dans la machine. L'idée du machine learning, c'est de prendre, en fait, les experts, ils sont nuls, on va plutôt prendre des données et les mettre dans la machine et ça va être magique. La vérité, c'est que c'est pas magique.
Okay, d'accord, c'est une bonne façon de voir les choses. Donc l'IA, c'est une reproduction d'une logique, enfin d'une compréhension humaine. Là où le machine learning, c'est la compréhension de la machine d'un environnement.
Ouais, disons que l'IA qui n'est pas du machine learning, ça se passe souvent par passer par un expert. Et la différence du machine learning par rapport à d'autres, c'est pour ça que c'est assez transversal le machine learning, parce qu'en vrai, on peut apprendre la structure d'un langage en faisant du machine learning, ou on peut décrire la structure d'un langage en allant travailler avec des spécialistes de la grammaire et des linguistes. Le résultat, c'est-à-dire la structure du langage, ça se trouve, c'est la même chose, et c'est les mêmes... l'exploiter, ça va faire intervenir les mêmes disciplines de l'IA, mais la manière d'y arriver est complètement différente.
Ok. Alors du coup, ce que je perçois aussi, donc tu nous parles de tout ce travail que tu as fait sur le déplacement des foules, dans la simulation, dans les jeux vidéo, ou dans le monde du cinéma, est-ce que ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a de l'IA partout ? C'est-à-dire que ça me paraissait pas si évident que ça, en fait, que c'était de l'IA qui gérait ces aspects-là.
Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle de l'IA, en vrai. Quand à la place d'écrire une URL, parce qu'on a arrêté d'écrire des URL, on écrit IFTDD dans Google, et que ça passe par l'algo PageRank de Google pour ensuite arriver sur le site DivZenDev, ça, quelque part, ça manipule... des problématiques de création d'index, ça manipule des graphes entre les différentes pages, des algorithmes de parcours de graphes. Ça, il y a dans les années 80, c'était des choses qui étaient faites dans des labos d'intelligence artificielle. Donc à ce titre, quand t'écris un truc dans Google, c'est de l'IA. Après, même si on veut parler de deep learning et de machine learning et de trucs un peu plus modernes qu'on associe à de l'IA aujourd'hui, en vrai, quand tu tapes IFTTD dans Google, il fait aussi ce genre de truc parce qu'il va être capable de faire de la traduction dans une autre langue. Aujourd'hui, les bons modèles de traduction, ils sont basés sur du deep learning et il va aller... Alors, IFTTD, c'est un très mauvais exemple, mais si tu cherches développeur dans Google, il va aussi te chercher developers, il va aussi te chercher dans d'autres langues. Et ça, en fait, cette traduction-là, il l'a faite grâce à un modèle qui a été sans doute appris avec des techniques de deep learning. Donc oui, il y a de l'IA partout.
Alors du coup, quelle est où se situe la différence entre le deep learning et le machine learning?
Alors, le deep learning, c'est une chapelle différente de l'église machine learning. Je sais pas s'il y a un schisme déjà ou pas, mais globalement, c'est un terme marketing pour parler d'un sous-ensemble du machine learning. On a un gros problème en IA, c'est que, et c'est un problème qui date même de 1956 et tout, c'est que, on fait des promesses. On met des termes dessus, on dit que c'est super cool. Ces promesses-là sont jamais atteintes complètement. Et du coup, le terme qui était associé à ce truc-là, généralement, il y a quand même quelque chose qui marche à la fin. Mais ce terme-là, il devient dévoyé. On dit, ouais, ok.
C'est plus vraiment ça.
C'est plus vraiment ça. Les systèmes experts dans les années 80, le truc qui était hyper cool, c'était créer des systèmes experts. Et ça allait résoudre tous les problèmes de la Terre. Les systèmes experts, c'est des trucs qui, dans les années d'après, ont été mis en prod partout. Tout le monde a utilisé des systèmes à base de règles, etc. C'est des systèmes experts. Mais aujourd'hui, si tu bosses sur la nouvelle version des systèmes experts, je sais pas ce que c'est, je bosse pas dessus, et que tu veux appeler ça, ouais, mais ça, c'est vraiment des systèmes experts, parce que c'est comme ça que c'est appelé dans la littérature, ça ne marche pas. Parce que les gens te disent, ah mais non, les systèmes experts, c'est des trucs des années 80 qui marchent pas. En fait, en machine learning, en deep learning, on a un peu le même problème. Le machine learning... ça marche, mais c'est pas sexy. Et du coup, pour se différencier, alors c'est du marketing d'académique, hein, c'est des académiques qui ont dit, ouais, mais là, en fait, on fait des réseaux de neurones profonds, du coup, on va appeler ça deep, parce que c'est différenciant. Alors après, il y a toute une catégorie de choses qui viennent de type d'architecture de réseaux de neurones, qui est une vieille technique de machine learning, hein, mais qui ont été développées dans ce concept de deep learning. Donc c'est devenu un truc... qui a des caractéristiques assez spécifiques et qui existent, mais à la base, ouais, c'est des gens qui ont mis un mot marketing sur un nouveau truc pour se différencier. Comme on en a maintenant, aujourd'hui, il y a 12 milliards de startups qui se lancent, nous inclus, hein, ouais. En essayant de trouver un branding, un truc pour dire, ouais, mais je vais pas vous dire que je fais le truc actuel, parce que moi, je suis l'avenir, je suis une startup, donc ils essaient de trouver d'autres choses.
C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'étais persuadé que dès qu'on faisait un réseau de neurones, on était sur du deep learning. Et que le machine learning, en fait, du coup, c'était un réseau le deep learning, c'était un réseau de machine learning. T'as chaque algorithme qui te sort une information d'un set de données, et du coup, après, t'as un ensemble d'algorithmes qui va analyser ces informations extraites par chaque neurone et qui va en tirer une conclusion, neurone par neurone, enfin, tu vois, et qui après va
générer le truc.
Et du coup, tu vois, pour moi, le machine learning, c'était un neurone, là où le deep learning, du coup, c'était en fait la clusterisation du machine learning.
Alors, c'est pas complètement faux, c'est parcellaire, mais c'est pas complètement faux. En fait, tout le monde a utilisé Excel dans sa vie, malheureusement. Hein. Excel, il y a des données, des tables de données, des colonnes. Quand on prend deux colonnes dans Excel, avec chacun une ligne, et qu'on demande de faire un graphe, il va faire un nuage de points, et on peut lui demander de faire une régression linéaire, et il va trouver la droite moyenne qui passe par tous ces points-là. Tout le monde a fait ça, et je pense que même tout le monde a dû... Enfin, tous les gens qui ont fait des études scientifiques ont vu comment calculer cette droite-là à partir des points. Bon, ça, c'est du machine learning. C'est du machine learning où on a... des données, on a une donnée de sortie, on va dire, je vais dire abscisse ordonnée, je vais me tromper, donc je vais pas dire abscisse ordonnée, je vais dire l'échelle verticale, on va dire que c'est la sortie, et l'échelle horizontale qui est l'entrée, et en fait, calculer la droite, c'est calculer une fonction qui permet de passer de l'échelle horizontale à l'échelle verticale, le mieux possible, donc de prédire la valeur. Et ça, en fait, la droite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prédit la valeur du Y en fonction du X. Donc ça, c'est le niveau zéro du machine learning, mais quelque part, c'est du machine learning. Alors après, la limite, elle est floue, mais globalement, c'est le début du machine learning. Et ça, en fait, faire ça, on peut le faire donc à deux dimensions, on peut le faire à N dimensions. En fait, ça, c'est un neurone. Globalement, c'est un neurone. Alors normalement, il y a 14 auditeurs qui font « Mais non, c'est pas juste ça, c'est hyper compliqué. » Ouais, globalement, c'est ça. Et donc, un réseau de neurones, c'est on va prendre la sortie de cette combinaison linéaire avec le facteur, etc. Et puis, on va la rentrer dans un autre neurone, etc. etc. Et donc, ça devient deep parce que on a plus un neurone, on a plus une couche de neurone, on a plus deux couches de neurones, on a des dizaines de couches de neurones. Et le problème que ça pose, c'est que les méthodes mathématiques pour calculer les valeurs, calculer les fonctions, en fait, elles marchent bien et sont stables numériquement quand on a peu de couches, et on sait le faire quand il y a peu de couches. Et en fait, ce qui a débloqué le deep learning, c'est des méthodes différentes de calcul, donc des tweaks mathématiques pour réussir à entraîner sur plus de neurones, d'accord, donc sur plus de couches. Mmh. Donc fondamentalement, c'est un truc qui est très très incrémental. Il y a pas de, on s'est aperçu de la révolution de deep learning que après coup. Mais au final, c'est juste des gens qui ont empilé des trucs, et puis un jour, il y a Yann Lequin qui a dit ça s'appelle du deep learning, et du coup, c'était super cool. Alors, il était pas tout seul, mais il a fait du boulot important. Mais globalement, c'est une continuité plutôt que qu'une vraie différence.
Est-ce que l'explosion de ce secteur-là est pas au final directement corrélée à l'arrivée du cloud et du coup l'arrivée des ressources de manière entre guillemets illimitée, où il y a une vraie innovation intellectuelle, mathématique, très récente, qui a permis le développement de tout ça?
La vérité, c'est que le machine learning, c'est une science expérimentale, vachement. Donc en fait, tant qu'on peut pas faire d'expérience, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne marche pas. Et donc, pour pouvoir faire les expériences, faut d'une part avoir la matière pour ces expériences, donc les données. Tant qu'on n'a pas la capacité d'avoir des grandes quantités de données, en fait, on peut pas faire les expériences. Même si on a des supers idées, d'une part, on les a pas vraiment parce que c'est pas comme ça que fonctionne la recherche dans ce domaine-là, en tout cas. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut avoir une manière, enfin, il faut pouvoir conduire l'expérience. Donc, typiquement, le corollaire du deep learning, c'est que, en fait, il y a beaucoup de, donc, chaque neurone, on a dit, c'est une combinaison linéaire de ses entrées. Donc c'est A fois ma première entrée plus B fois ma deuxième entrée plus C. Donc ça, c'est des poids qu'il va falloir déterminer. C'est ça en fait qu'on apprend quand on fait le machine learning. Et du coup, on imagine bien quand il y a des couches de neurones et des couches de neurones et des couches de neurones, ça fait beaucoup beaucoup de poids. Et en fait, tous ces poids là, quelque part, si on en rajoute un, faut à chaque fois rajouter des données. Plus il y a de poids à apprendre, plus il y a de facteurs à apprendre, plus il y a besoin de données. Donc quand on fait du deep learning, on a besoin de beaucoup de données. Et après, intellectuellement, ça paraît logique. Plus on a de choses à apprendre, plus on a de données, plus on a besoin de ressources de calcul pour pouvoir le faire. Donc en fait, il faut vraiment les deux. C'est le fait d'avoir des ressources de calcul et de la donnée à disposition. Et c'est aussi pour ça que c'est une... quand on regarde les grosses confs, et surtout en deep learning, les grosses boîtes et les plateformes qui voient passer de la donnée ont un avantage délirant parce qu'en fait, elles ont accès à ces bases de données-là.
Ok. Alors, toi, du coup, donc, tu bosses dans ce domaine-là depuis presque 15 ans maintenant.
Oui.
qu'est-ce que tu as vu comme changement, comme évolution dans ces sujets-là?
Alors, c'est assez drôle. Moi, quand j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, j'ai choisi de faire de l'IA. Donc, j'étais dans une option qui s'appelait à l'époque image et IA, et il n'y avait pas grand monde qui voulait faire ça. C'était pas hyper sexy. Dans mon école, dans l'EGT, ça s'appelait vraiment image IA, mais il y a plein d'écoles qui masquaient ça, qui disaient c'est du data mining, c'est de l'extraction de connaissances, c'est... il y a plein de termes comme ça qui existaient, parce qu'en fait, c'était pas cool. Il y a ce truc cyclique où des fois c'est à la mode, et puis quand les promesses qui ont été faites fonctionnent pas, on a les hivers de l'IA. Donc là, on a vécu deux hivers de l'IA. Là, probablement, on va s'en prendre un dans la tronche, à mon avis, parce que peut-être pas de l'IA en lui-même, par exemple de la robotique, de la voiture autonome, ça peut arriver, peut-être pas, mais ça peut arriver. Et du coup, quand je faisais mes études, en fait, c'était pas hyper cool. Maintenant, c'est vraiment hyper cool. Et toutes les formations qui font vaguement une régression linéaire dans leurs cours ou qui savent ce que c'est qu'une distribution disent qu'elles font de la data science et de l'IA. Donc, c'est ça principalement qui a changé. Après, bien sûr, pourquoi ça a changé ? Parce que du coup, c'est devenu un secteur où il y a des applications industrielles des méthodes qui existent.
Alors donc du coup récemment vous avez créé CraftAI avec quelques associés.
Ouais.
Pourquoi vous avez créé ça et qu'est-ce que vous apportez en fait comme solution?
Alors du coup l'histoire de CraftAI est assez intéressante parce qu'elle est assez unique. On a été créé à partir d'une spin-off d'une boîte existante, mais surtout on bossait tous dans le domaine de l'IA autour de la simulation, de la robotique, etc. Et en fait, c'est des domaines où, en fait, l'IA est au service de la vision de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être, dans le cas du jeu vidéo, ça va être un game designer qui essaie de créer une expérience vidéoludique. Dans le cas d'une simulation, ça va être quelqu'un qui essaie de créer, d'entraîner quelqu'un donc, qui a des objectifs pédagogiques. Et du coup, ça veut dire que cette personne, ce rôle-là, il est hyper important. Et tout ce que fait l'IA, ça doit être au service de cette vision-là. Donc, ça doit être contrôlé et contrôlable par un humain. Donc, quel que soit le degré d'autonomie qu'on veut avoir, quel que soit les trucs fancy qu'on veut vouloir faire, à la fin, faut que ça réponde aux objectifs, parce que sinon, ça ne sert à rien. Notamment dans le monde du jeu vidéo, l'objectif, c'est pas que les adversaires soient super bons ou imitent parfaitement le joueur, c'est que ça réponde aux impératifs de storytelling et de gameplay du game designer. Et donc, en fait, on a cette sensibilisation, cette sensibilité qui existait dans l'équipe dès le début, en fait, qui était un truc qui existait. Et ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à se dire OK, cette vision-là, comment on peut l'appliquer sur cette partie machine learning et comment on peut l'appliquer quand on exploite des données et comment on peut créer des IA qui se nourrissent des données, mais qui restent des boîtes blanches, qui restent des trucs explicables, des trucs où un humain va pouvoir contrôler, va pouvoir savoir ce qui se passe. On a toujours eu cette vision que ce qui est important, c'est certes que mon IA fasse des bonnes prédictions, qu'elle fasse des bonnes recommandations, qu'elle fonctionne bien, mais c'est surtout qu'elle puisse être utilisable par des êtres humains, qu'elle puisse être contrôlable par des êtres humains, qu'elle puisse être supervisable par des êtres humains. Et c'est cette vision de dire, OK, l'objectif, c'est vraiment parce que sinon ça va pas être déployé, parce que sinon ça va pas être utilisé. Il faut que les gens comprennent. Donc c'est vraiment ça la vision d'origine de CraftAI. On avait déjà travaillé sur le sujet et on avait déjà des résultats et on s'est dit OK, le meilleur moyen de continuer à développer ces choses-là et de les exploiter à une échelle industrielle, c'est de créer une boîte. Et c'est comme ça qu'est né CraftAI en 2015.
D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on appelle du coup de l'apprentissage supervisé quand tu parles du coup de supervision d'un être humain sur cette fameuse boîte blanche, ou on est encore sur un autre?
Bah en fait, c'est alors supervisé ou pas supervisé. Ce qu'on appelle apprentissage supervisé, c'est par exemple quand on essaye de reconnaître des chats, c'est on va dire dans cette image-là il y a un chat, dans cette image-là il y a pas de chat, dans cette image-là il y a un chat. Et ça, c'est ce qu'on appelle supervisé. Ça veut juste dire que les données. Ce qu'on appelle labellisé, ça veut dire que on a 10 000 images et on a 5 000 images où on sait que c'est des chats et on sait lesquelles où il y a des chats et 5 000 images où on sait pas où il y a pas de chats. Et ça, du coup, c'est de l'apprentissage supervisé. Ce que nous, on essaye de faire, c'est donc effectivement de l'apprentissage supervisé, mais c'est surtout que le modèle qui est appris. Donc tout à l'heure, on parlait de réseau de neurones, on parlait de régression linéaire. Donc cette structure qui a pris la fonction qu'on apprend, en fait, on veut que un humain, un observateur puisse comprendre la fonction, qui puisse comprendre en fait comment les données d'entrée sont traitées pour arriver à déterminer si c'est un chat ou pas un chat. Alors nous, on travaille sur des données qui sont pas des images de chats, parce qu'en fait, il y a peu d'applications industrielles étonnamment sur les images de chats, mais enfin, peut-être que ça peut venir. On travaille sur des données structurées, on travaille sur tout ce qui est données de capteurs, donc des capteurs IoT, mais aussi des capteurs un peu virtuels, genre le comportement d'un utilisateur sur un site web, la quantité de chips dans le stock de tel ou tel retailer, etc. Donc vraiment sur des données qui sont mesurées telles quelles, qui évoluent dans le temps. Et où du coup il y a non seulement cet enjeu d'explicabilité, parce que le gestionnaire de l'entrepôt, si on lui dit mais demain faut que tu prévois de racheter des chips, c'était ça mon exemple, des chips, c'est parce que d'habitude il y a beaucoup de consommation le jeudi de chips et du coup tu vas être à court parce que demain c'est jeudi et en plus il fait beau, du coup les gens consomment beaucoup de chips quand il fait beau. Et ce truc là, parce que les gens consomment beaucoup de chips quand il fait beau, ça c'est des choses qu'on a appris en voyant les données. Un modèle type deep learning en fait serait pas capable de dire ça, il serait pas capable de dire le parce que machin, et donc nous notre thèse quand on a monté CraftAI et ce qui se vérifie auprès de nos clients, c'est que Pour que l'IA soit vraiment utilisée et que ça apporte vraiment de la valeur du coup au gestionnaire de stock, faut que le mec il soit en capacité de suivre la recommandation qu'on lui fait, et il puisse faire confiance à cette recommandation-là. Donc il faut être capable de lui expliquer le cheminement de pensée avec des gros guillemets de l'IA. Et du coup c'est ce parce que là qui est le truc important qu'on fait chez Craft AI et qu'on met en production chez Craft AI.
Donc en fait c'est ce fameux modèle qui est créé à partir de données historiques.
Ouais.
Le but c'est d'en faire un modèle qui soit limpide pour un être humain et pas que pour la machine.
C'est ça.
Et ce modèle en fait, ça grosso modo c'est une fonction. Alors, un ensemble de coefficients basé sur l'ensemble des sur des valeurs données. Du coup tu peux après te dire sur mon jour n plus 1, tu pourrais prendre ta calculette TI-92 toi-même. Faire ton calcul et trouver le même résultat que la machine. C'est ça à peu près
ou... Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça et c'est même plus... Alors, le concept de l'IA explicable, c'est un concept qui est encore un peu flou, mais c'est un truc c'est ça l'idée, c'est que on puisse avoir l'intuition, qu'un humain puisse avoir l'intuition de comment ça fonctionne, comment cette IA prend des décisions. Et donc, un aspect de ça, c'est une fonction qui est définie complètement et du coup tu peux prendre ta calculette TI-92 et appliquer les trucs. La vérité, c'est que un réseau de neurones, c'est aussi une fonction qui est complète et tu peux prendre ta calculette TI-92, beaucoup de temps pour rentrer les données, les différents poids et tu peux faire le calcul. La limite, c'est que la limite des réseaux de neurones, c'est que les transformations que tu fais sur les données, en fait, elles sont tellement complexes que c'est hyper difficile d'avoir l'intuition de dire, je dis qu'on est plutôt vendredi que jeudi, qu'est-ce que ça va faire sur la sortie? Et du coup, c'est hyper compliqué d'être capable d'anticiper, ce que va faire ton IA, en fait. Et ça, en fait, cette capacité à anticiper, c'est quand tu lis un peu des études en sciences sociales, c'est ça qui est hyper important pour créer ce lien de confiance, c'est ça que tu cherches dans une explication. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des fonctions. Des fonctions que nous on utilise des arbres de décision. Donc, ce qui sort de Craft AI, c'est des arbres de décision. Donc globalement, c'est des if this then this en cascade, donc des règles métiers qui sont en cascade. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que ces règles, pour qu'elles soient compréhensibles par l'interlocuteur, donc que ça soit par un superviseur de stock ou que ça soit par l'utilisateur final d'une appli mobile, il faut que les données qu'elle manipule, ça soit des données que lui, il comprend et que les seuils calculés, les manipulations qui sont faites, en fait, soient compréhensibles. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on prend en compte. C'est hyper important de manipuler des données qui sont compréhensibles par les gens à qui tu essayes d'expliquer, les gens qui vont utiliser cette IA-là.
D'accord. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que votre scope d'intervention va être limité en fonction des données que vous avez? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez un certain critère d'acceptation en fonction des données qui vous sont données? Comment ça se...
Alors, la vérité, c'est que les données brutes dans n'importe quelle entreprise, elles sont jamais bien, elles sont jamais parfaites. Et si elles étaient parfaites, du coup, ils auraient... Enfin, tout le monde serait merveilleux, mais en fait, ça n'existe pas parce qu'elles sont toujours parfaites pour un cas d'utilisation. Et vu que on amène une technologie et que on bosse avec nos clients sur un cas d'utilisation, de toute façon, il faut toujours les adapter pour ce cas d'utilisation-là. Après, en termes de quantité de données, donc sur la qualité des données, c'est jamais le cas. Mais en vrai, il y a des milliards de techniques qui existent pour sélectionner les données qui vont bien, pour avoir des critères pour sélectionner les données qui vont bien, pour remplacer les données qui manquent, etc. Donc ça, c'est un problème, c'est une problématique qui est réglée, entre guillemets. Après, la quantité de données, donc nous, on travaille vraiment sur des données qui ont une forte composante temporelle. Donc si je reprends mon exemple d'entrepôt et de chips, il y a clairement une saisonnalité. Donc ça, on peut se dire de manière intuitive, ok, en fait, les gens consomment plus de chips l'été autour d'un barbecue que l'hiver autour d'une raclette, parce que mettre des chips dans la raclette, en fait, c'est pas hyper bon. Enfin, peut-être que si. Il faut que je teste quelque chose. Donc il y a cette saisonnalité. Donc concrètement, donc ça c'est quelque chose dont on va pouvoir discuter avec des experts métiers, des gens qui connaissent l'évolution des cours de chips, les gens qui connaissent le truc qu'on essaie de modéliser. Ça c'est hyper important dans le process. Moi je crois pas qu'on puisse construire une IA sans faire intervenir les gens qui vont l'utiliser, les gens qui savent entre guillemets. Donc ça, ces saisonnalités-là, c'est des trucs dont on peut discuter, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les données, on peut analyser ce genre de choses. Et donc, ce qui se passe, c'est que, globalement, La quantité de données, du coup, elle va dépendre de cette saisonnalité-là. Si,
on parce a que une... du coup, par exemple, si on te donne 1 million de données, mais qui correspond aux ventes de chips sur les 3 derniers jours,
c'est ça.
Ça sert à rien.
Ça mais si tu as
1 million de données qui représentent 10 ans d'historique de vente, tu peux du coup en faire quelque chose.
Exactement, exactement. Donc c'est vraiment lié à la saisonnalité. La quantité en elle-même, c'est jamais un bon indicateur. En fait, si on veut prendre le côté mathématique du truc, c'est on a des colonnes dans Excel, on a des dimensions. Et en fait, il faut, donc dans tout problème de machine learning, idéalement, on veut avoir une représentativité de tout l'espace de ces dimensions-là. Donc nous, dans notre cas, avec les problématiques qu'on traite et ce côté traitement de séries temporelles, de données au cours du temps, c'est vraiment lié à la saisonnalité. Donc c'est-à-dire, là, dans notre cas, il faut au moins qu'on ait un an. Si on n'a pas un an de données, on n'arrivera pas à choper ce que c'est la différence entre l'été et l'hiver. Un an, ça suffit. Peut-être, mais en fait, en vrai, si on veut être sûr de ce qu'on fait, il faut probablement avoir une deuxième saison. Et alors ça, c'est là où il faut être malin, parce qu'en fait, cette profondeur de données-là, elle n'existe pas dans tous les cas d'utilisation. Et en fait, admettons, on crée un nouvel entrepôt. Le nouvel entrepôt, il va servir à une population différente qui va avoir des habitudes de consommation de chips différentes. Et en fait, on veut pas qu'ils commencent à faire des trucs malins qu'au bout de 2 ans, et en attendant, on fait « bah non, nous on fait rien, de toute façon, on n'a pas besoin ». Statistiquement, c'est pas pertinent de faire des prédictions à moins de 2 ans. Ça, c'est vrai. Fondamentalement, c'est pas faux, et je pense qu'il y a plein de statisticiens qui diraient c'est comme ça. Opérationnellement, c'est pas vraiment recevable. Et en fait, du coup, on peut toujours faire des choses. Ce qui est important, c'est d'être capable de donner des degrés de confiance, capable de dire, OK, là, c'est la première fois que je vois un mois de juin. Je te préviens, c'est la première fois que je vois un mois de juin. Je te dis que ça fait ça parce que j'ai appris que les semaines où il fait plus chaud, j'ai telle consommation les semaines où il fait plus froid. Donc ça, peut-être, ça, je l'ai probablement vu parce que peut-être que, avec le réchauffement climatique, ma bonne dame, j'ai vu des semaines chaudes pendant l'hiver ou pendant le printemps qui se rapprochent d'une semaine du mois de juin. Donc je vais pouvoir prendre en compte la température, ce qui me donne peut-être un moyen de prendre en compte la saisonnalité sans avoir vraiment la saisonnalité, mais c'est un peu bancal. Mais ça me permet de faire des choses. Et ça suppose que, du coup, quand je vais vraiment mes données du mois de juin, en fait, c'est important de les prendre en compte tout de suite. Pour enrichir ma couverture de l'espace. Et là, on arrive à une problématique qui est, OK, j'ai des données qui accumulent au cours du temps, ce qui veut dire que mon modèle de machine learning ne peut pas être fixe. Il doit être capable de prendre en compte ces nouvelles données qui arrivent. Quand on reconnaît des chats dans une image, on peut se dire ce que c'est qu'un chat, ça va pas beaucoup évoluer. Donc, une fois que j'ai appris avec un super corpus de données sur les chats ce que c'est qu'un chat et comment le reconnaître dans une image, bah, mon modèle, il est bon, il est robuste et je peux même mesurer sa robustesse. Quand t'essayes de prédire la consommation électrique d'un foyer ou l'évolution de la quantité de chips dans un entrepôt, tu sais jamais vraiment à quel moment t'as vu ce que c'était, parce que le cycle de vente des chips, en fait, il va évoluer au cours du temps, etc. Et donc, c'est hyper important d'avoir ce process continu où le modèle que t'apprends, où ton IA, elle se repose jamais sur ses lauriers, elle se remet toujours en question.
Mais alors, du coup, sur cette notion d'apprentissage vis-à-vis de la donnée, tu nous parles donc de météo, de mois de juin et compagnie sur l'analyse du cycle de vente des chips. Est-ce que ça veut dire que c'est à vous de déterminer en fait les données qui vont être analysées et la recherche de corrélation, ou c'est injecte toutes les données possibles imaginables et c'est la machine qui va réussir à trouver une corrélation entre les données.
Idéalement, c'est la machine qui trouve tout parce que la machine est vraiment trop forte. Le problème, c'est que la machine, elle n'a pas d'intuition. Et du coup, pour trouver tout, elle a besoin, on en revient au problème, elle a besoin d'avoir une couverture de l'espace quasiment complète,
parce
d'avoir des contre-exemples.
Par exemple, tu pourrais ajouter l'activité sismique de Glasgow,
ouais,
dans ton analyse de, ouais, est-ce que ça a un impact, pour voir du coup s'il y a un impact sur les ventes de chips.
Ouais. Bien sûr, bien sûr, et peut-être que ça a un impact.
On ne sait pas.
Il y a plein de ce qu'on appelle des spurious correlation, et c'est assez drôle parce que on peut trouver des choses assez drôles dans ce domaine-là. Dans mon truc préféré, c'est les ventes de couches qui impactent les ventes de chips. Je reviens des chips. Et en fait, c'est juste que c'est les mêmes personnes qui vont.
Mais t'as un site entier qui est dédié à la corrélation et non pas à la causalité, où tu vois que la consommation de margarine en Allemagne est corrélée au taux de suicide au Japon.
par exemple. C'est ça. Donc, il existe des techniques en analyse de données qui permettent de trouver des corrélations, de trouver des causalités plus ou moins fortes. Et à partir du moment où on a beaucoup de données, on peut faire ces analyses-là. La vérité, c'est que contrairement à la machine, l'humain, il peut avoir des intuitions. Donc, c'est toujours une collaboration entre les deux. C'est-à-dire que c'est pour ça que, en fait... le machine learning, c'est prédire une colonne du tableau Excel par rapport aux autres, mais en fait c'est hyper important de savoir ce qu'il y a dans chaque colonne, c'est hyper important d'avoir le titre de la colonne du tableau Excel, de discuter avec des gens qui connaissent ces données là parce que ces intuitions là, cette connaissance métier, en fait elle a un intérêt dans le process de modélisation.
Mais du coup, en fait, c'est juste une confirmation ou une infirmation d'une intuition humaine.
Ouais.
C'est-à-dire que on peut se dire, la température extérieure va influer sur ma vente de chips. Ma vente de bière va y avoir une corrélation avec ma vente de chips. Donc, tu peux le vérifier avec les données. Mais ça va pas te trouver une corrélation ou une incidence à laquelle tu n'aurais pas pensé.
Mais de toute façon, l'algo, il va pas être capable de, enfin, alors. Le premier truc, c'est que si t'as pas l'idée de lui ajouter la météo, par exemple, ou les ventes de bière, en fait, il va pas la trouver. Ça n'existe pas, ça. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, de toute façon, à un moment, il y a un humain qui dit « Ok, tu vas prendre en compte ces données-là. » Et du coup, ça nécessite d'avoir sélectionné et d'avoir réfléchi à ça. Et ensuite, il y a des algos qui vont trouver des corrélations auxquelles t'as pas pensé, d'où des sites internet qui s'amusent de ça. Mais après, c'est pour ça que c'est un process où tu vas travailler avec des algos et où ça va être un aller-retour entre la compétence du data scientist, la compétence de l'expert métier et ce que sort l'algo et ce qui permet de gérer l'algo. Dans ce travail, en fait, là encore, la partie explicabilité des algos, la capacité à comprendre ce qui a été appris, ça facilite vachement le travail. Donc il n'y a pas de... entre guillemets, dans le cas général, il n'y a pas de truc magique. Il y a toujours un travail. Nous, quand on vend CraftAI, on vend le moteur CraftAI qui a des spécificités, qui fait des choses très très bien, et on vend aussi de l'accompagnement. On a des data scientists qui bossent avec nos clients pour les aider justement à tirer le meilleur parti de ce que fait CraftAI et les aider sur tous ces trucs là de sélection de données, de ok, mais quelles données je prends en fonction de quoi, etc. Donc c'est pas le graal du deep learning, c'est de dire on balance tout et on va voir ce que ça donne. En théorie ça marche, en pratique moi j'ai jamais vu fonctionner. Même des gens qui font du deep learning à niveau industriel, qui font des trucs très très complexes sur de la reconnaissance, ils ont un savoir-faire nécessaire pour réussir à gérer cette IA.
Mais donc, en fait, ce que vous ajoutez, vous, chez CraftAI, en fait, c'est vraiment cette notion de book, c'est-à-dire que, de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que dans toute IA, il y a un besoin d'avoir une réflexion humaine en amont, une intuition sur une façon d'analyser les choses ou autre. Et vous, en fait, vous ajoutez le fait que, une fois que la décision est prise par la machine, faut pouvoir de nouveau inclure l'être humain dans cette prise de décision. Et donc, tu reboucles, en fait, avec l'humain. Là où un truc d'IA naturel va dire, tu nous as dit de regarder ça, on l'a regardé, voilà le résultat.
Ouais.
Maintenant, t'en fais ce que tu veux.
Et ça, c'est vrai au moment où tu construis ton IA, mais en fait, c'est aussi important au moment où, quand ton IA, elle tourne, entre guillemets, que tu l'as laissé gambader dans les champs. Une des caractéristiques de ce qu'on fait chez CraftAI, c'est que l'IA, quand elle va faire sa recommandation et que le data scientist n'est plus là, qu'en fait il y a un expert métier qui utilise ou qui supervise ce que va dire l'IA, en fait faut que elle va aussi être capable d'expliquer ce qu'elle fait. Et la personne qui supervise, elle va regarder de temps en temps ce qui se passe et il faut qu'elle soit capable d'aller débugger, parce qu'au final tout ça c'est de l'informatique. Soit parce que l'IA, ce qu'elle sort, c'est une recommandation et du coup il faut que l'humain qui est en face soit capable de la suivre ou de pas de la suivre, en tout cas de comprendre pourquoi il l'a fait. On a des clients déployés, par exemple on déploie chez Dalkia, qui est une filiale d'EDF qui gère du chauffage dans des bâtiments. Ils utilisent CraftAI dans leur process de supervision, donc ils ont des gens qui vérifient que les bâtiments consomment bien l'énergie qu'il faut, chauffent bien comme il faut, etc. Donc au final, le module CraftAI leur fait des recommandations dans leur dashboard et leur dit c'est des recommandations de diagnostic, ce bâtiment là il va pas bien, ce bâtiment là faut envoyer un technicien, etc. et en C'est à eux de dire je l'accepte ou je l'accepte pas, parce que c'est eux qui envoient le technicien, c'est eux entre guillemets qui s'engagent sur le fait qu'il y a pas de problème sur cette installation là où il y en a. Et du coup, ce qu'on a vu en discutant avec eux, c'est que si juste on leur faisait la recommandation, eux en fait ils iraient vérifier, parce que enfin au bout d'un moment, peut-être au bout de 3 ans à utiliser le système, ils auraient suffisamment confiance, ils auraient suffisamment compris pourquoi cette recommandation là avait, mais en tout cas de base ils vont aller vérifier. L'intérêt de faire de l'explication, et que l'explication ait été, la nature de l'explication a été conçue avec eux, c'est que quand ils voient l'explication, s'ils sont d'accord avec l'explication, qu'ils sont d'accord avec la recommandation, ils ont fini leur travail, entre guillemets. Et s'ils sont pas d'accord avec l'explication, ils vont pouvoir aller contre-analyser. Mais du coup, ils ne passent du temps que dans les cas où à la fois la prédiction leur paraît bizarre et à la fois l'explication leur paraît bizarre. Et du coup, c'est ça qui leur fait gagner du temps. C'est l'explication en elle-même qui fait gagner du temps et qui fait que ils gagnent en productivité, qui fait que les bâtiments gérés par Dalkia sont mieux supervisés, qui fait que Dalkia nous paye pour utiliser CraftAI. Donc, il y a toute une catégorie de cas d'utilisation où c'est hyper important de convaincre l'utilisateur que ce que fait l'IA, c'est important et ça a de la valeur. Sinon, en fait, il va pas l'utiliser, ça aura pas de valeur, du coup, il n'existera pas.
Tu nous parlais aussi de l'importance de la supervision sur une IA. Une partie des auditeurs des Digital Dev le savent peut-être, parce qu'ils l'ont expérimenté de premier abord, mais j'ai créé un petit bot qui envoie des DM sur Twitter pour parler de Digital Dev. Mm-hmm. Et donc, je me suis créé un mini réseau de neurones, entre guillemets, qui détermine, en fait, est-ce que le compte Twitter est un compte de développeur ou pas. Donc, je détermine, en fait, le type de langage utilisé par le développeur, si c'est un développeur ou non, en amont, bien sûr, et s'il est en France ou pas.
Ouais.
En fait, donc, j'ai un ensemble de petits neurones, et après, dans un programme de décision, bah, okay, j'envoie un DM avec... je mets un lien vers tel épisode ou tel épisode.
Ok. J'ai pas reçu ce genre de DM, je suis hyper,
vous
hyper
êtes,
vexé.
Vous assez nombreux. Mais non, mais en fait, c'est là où je rejoins ton idée de supervision, en fait, c'est que j'ai passé beaucoup de temps au début à apprendre mon IA, en fait, mm-hmm. à détecter les gens. Au bout d'un moment, je l'ai laissé tourner. Et en fait, aujourd'hui, je crois que j'ai à peu près 30 millions de comptes Twitter enregistrés dans ma base.
Ouais.
J'en ai ciblé même pas 1%, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que forcément, je me suis chié quelque part dans mon algorithme.
Ouais.
Et surtout, en fait, il a commencé à m'ajouter des gens de Saint-Pétersbourg comme étant des gens étant potentiellement en France. En fait, il y a eu une déviation à un moment.
D'accord.
Et comme je l'ai laissé faire toute seule, en fait, petit à petit, ça s'est augmenté. Et aujourd'hui, j'ai plein de Russes, en fait, un peu de données qui reçoivent des DM. Donc, j'ai dû couper mon bot, en fait, parce que je commençais à contacter trop de gens qui étaient plus en France.
Il y a souvent des histoires de bots et de Russes sur Twitter.
C'est marrant, on arrive souvent. Donc oui, le besoin de supervision, c'est une vraie nécessité, en fait, dans l'IA aujourd'hui.
Mais en fait, là, on arrive dans une maturité du marché où l'IA, les IA, tout ce qu'on fait, c'est doivent être opérés comme du logiciel, doivent être opérés avec les mêmes problématiques et il faut être capable de superviser, de débugger, de remonter des alertes sur des systèmes qui intrinsèquement sont complexes et qui pour un certain cas dans certains cas sont des boîtes noires complètes. Donc en fait ces problématiques là nous on les voit, elles arrivent. Alors il y a plusieurs niveaux dans cette problématique là. Monitorer les prédictions ou les décisions prises par une IA à un moment donné, être capable de vérifier, je sais pas, dans ton cas, ça pourrait être, c'est quoi les raisons pour lesquelles elle a pas contacté en DM tel ou tel truc, agréger ce genre de truc pour sortir des statistiques et que d'avoir une idée. Donc ça, c'est un peu une vision, j'ai mon IA qui exécute des choses, c'est quoi ses entrées-sorties et pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe statistiquement d'observer. Après, t'as la supervision de l'entraînement. Si ton IA s'entraîne en continu, parce qu'elle se nourrit des données au fur et à mesure, comment tu fais pour voir si ça dérive, comment tu mesures la dérive de ce qui se passe, comment tu mesures la dérive des entrées-sorties. Et c'est des vraies problématiques, hein. Il y a le truc très fameux de Microsoft qui a lancé un bot auto-apprenant qui est devenu nazi en 48 heures. Et en fait, ils s'en sont aperçus parce que c'était Microsoft et que ça a pris des proportions énormes. Mais je pense que si on réfléchit pas à ces problématiques là avant de lancer ce genre de bot et que ça se fait que doucement, en fait ça peut déraper sans que personne s'en aperçoive. Et du coup c'est des vraies problématiques aujourd'hui. Il y a tout un mouvement qui s'appelle Data Ops déjà, qui est comment on fait pour personnaliser le traitement de données. On va sans doute voir un truc qui s'appelle AI Ops qui arrive, ou un truc, je sais pas, je Vous l'avez entendu ici en premier, AI Ops. Je ne sais pas si c'est ça qui va marcher, mais oui, c'est des vraies problématiques. Et au fur et à mesure où on arrive sur de l'industrialisation de projets d'IA, on arrive sur ces problématiques-là. Il y a une stat qui fait assez peur. Alors, je crois que c'est Gartner. Gartner, attention, je vais essayer, qui dit, je crois que c'est en 2018, il y a 30%, je crois que c'est ça, en tout cas, il y a moins de la moitié des projets d'IA qui avaient été lancés pour être mis en prod, qui ont effectivement été mis en prod. Parce qu'en fait, il y a des milliards de problématiques dans tous les sens. Et la vérité, c'est que les gens qui pratiquent l'IA, donc on va dire des data scientists, c'est des gens qui sont très bons en stats, qui sont très bons sur des problématiques de modélisation, mais qui sont assez éloignés des problématiques d'ingénierie. Et du coup, c'est pas simple, en fait. Déployer une IA, la monitorer, la superviser, c'est compliqué. Déployer une IA auto-apprenante, c'est encore plus compliqué. Et du coup, c'est pas parce que ça marche dans un notebook Jupyter sur le coin de bureau d'un data scientist que ça va marcher at scale, même en s'abstrayant des problématiques de performance.
Oui, si on prend par exemple l'exemple de la voiture autonome, il y a quelques années, ça a été vendu comme étant un truc qui arriverait bientôt, que dans toutes les villes, on verrait partout des voitures qui se conduisent toutes seules et compagnie. Et en fait, il y a une espèce de palier qui a été atteint assez vite, au final. On constate qu'aujourd'hui, la voiture autonome, elle fonctionne même dans des conditions très, très précises, très données, mais dès qu'on arrive dans des situations météorologiques ou particulières de visibilité ou ce genre de choses, la voiture, quasiment incapable de se piloter tout seul. Donc on a cru effectivement que ça allait cartonner, et puis en fait on s'est confronté à des problèmes d'adaptabilité de l'IA, en fait.
Ouais, tous les ans, dans 5 ans, on a des voitures autonomes. Voilà. Ouais, parce que c'est intrinsèquement des choses complexes. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits avec le deep learning, mais au détriment justement de la compréhension. Même des gens qui conçoivent les modèles de comment ils fonctionnent, c'est quoi leurs limites, les comportements limites de plein de réseaux de neurones, ils sont pas compris. En plus, la manière mathématique dont ça fonctionne fait que on parlait du domaine d'application de tes données, quand tu t'éloignes de ce domaine-là, quand t'es en dehors des choses des valeurs que t'as vues dans ton dataset, ça fait juste n'importe quoi. Et c'est hyper difficile d'anticiper ce que ça va faire, parce que vu que c'est hyper difficile d'anticiper le comportement de ce réseau-là, on est un peu bloqué. Alors ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, que ça va pas se déployer graduellement. Clairement, je pense que sur des autoroutes, ça va arriver assez rapidement et on aura des trains de voitures autonomes. Et en fait, ça se trouve, elles auront même pas besoin de capteurs de vision, parce que c'est l'autoroute qui sera connectée et qui fournira des informations sans qu'il y ait besoin de caméra. Mais c'est compliqué, c'est surtout très difficile à anticiper. C'est très difficile de voir un système d'IA et de faire « Ok, en fait, il va marcher très bien dans ce domaine-là, mais pas bien dans ce domaine-là. » Nous, on travaille avec des laboratoires d'évaluation, des gens qui font qui mettent des tampons sur des produits industriels. Et c'est des problématiques qui se posent. Ils se disent « Mais ok, moi, je sais aller ouvrir un graph set d'automatisme de ma machine outil et comprendre comment il fonctionne et comprendre les limites et tester ces limites-là. Et ça, je sais faire. Mais si demain, on me donne... Un système industriel auto-apprenant, je ne sais pas comment le faire. Donc, c'est des vraies problématiques. Je pense qu'on peut aller au-delà de ce mur-là, mais en fait, il faut en avoir conscience, quoi. Il y a une problématique d'industrialisation qui est massive et qui nécessite de faire appel à des professionnels.
Alors justement, puisqu'on est entre guillemets entre professionnels, tous nos auditeurs sont quand même des gens très 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 techniques. Tu nous disais que votre volonté c'est de créer une boîte blanche, ouais, de vos algorithmes, donc on n'est clairement pas sur une notion de boîte noire. Donc j'imagine que votre choix de techno est aussi dans cette optique-là. Donc j'imagine que vous utilisez pas d'une TensorFlow ou toutes les technos vendues aujourd'hui par AWS, Google ou je ne sais qui. En termes de techno, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour créer tout ça ?
Alors, y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est, quand tu as une boîte d'IA, en gros, tu as deux manières de te différencier. Soit tu as un accès spécifique à des données spécifiques et du coup, tu es trop fort parce que tu as réussi à avoir accès à tel ou tel spécialiste ou tel dataset, etc. Et après... t'appliques sur ces données-là, t'es hyper compétent dans modélisation, etc. Et t'appliques sur ces données-là des bonnes pratiques, des librairies, des TensorFlow, des AWS machin, etc. Des trucs qui sont pas forcément ce que t'as fait toi, mais bon, tu les appliques et du coup, t'es différencié parce que t'as tes données, c'est super cool. Nous, On travaille sur les données de nos clients exclusivement. Chaque client, on travaille sur ses données à lui et ça, entre guillemets, c'est pas pollué par les données des autres. Donc c'est vraiment très siloté parce que c'est la nature des use cases sur lesquels on travaille. Donc notre différenciant, en fait, c'est l'algo. On investit sur l'algo en lui-même et c'est là où on fait notre valeur. Donc avec ce besoin d'explicabilité, plus ce besoin de se différencier et d'avoir de la propriété intellectuelle maison, ça nous a amené à, en gros, pour faire ce qu'on voulait, recoder globalement les algos dont on avait besoin, parce qu'en fait, on arrivait aux limites de dire on va utiliser la librairie, puis on va la contourner pour faire les adaptations dont on a besoin. En fait, au final, on était vraiment arrivé au bout de ce truc-là, et pour aller plus loin que des implémentations standards d'algo de machine learning, on avait besoin de réimplémenter, donc on a tout réimplémenté. De toute façon, le besoin d'explicabilité dont on parlait met de côté toutes les approches réseau de neurones, à l'état de l'art. Donc on met de côté des trucs comme TensorFlow. Après, TensorFlow, fondamentalement, c'est une librairie qui sait faire des maths sur des matrices. On pourrait l'utiliser pour faire certains types de maths sur certains types de matrices en interne. Mais fondamentalement, les algos, c'est nos implémentations maison. Après, comment les implémenter? Alors, comme je disais, on vient du monde de la simulation, etc. Moi, avant de monter CraftAI et une bonne partie de l'équipe, on bossait en C++, comme des vrais développeurs, avec des pointeurs, des segfaults et du multithreading qu'on pouvait gérer à la main. Une partie de nous adore ça, une partie de nous déteste ça. Donc, on a écouté un peu les deux et on a fait le choix de développer toute la partie algorithmique de CraftAI en Rust. Donc, Rust qui est un langage compilé qui a été développé par Firefox, par les gens de Mozilla pour les nouveaux moteurs de Firefox, qui est un langage très très élégant.
Qui a le vent en poupe en plus en ce moment.
Ouais, alors nous on en faisait avant que ça ait le vent en poupe. Quand on a monté CraftAI et qu'on a commencé par faire des protos en Python avec scikit-learn et les trucs habituels de data science, quand on est arrivé aux limites de ce truc là, on s'est dit ok, ben on va réimplémenter et du coup on s'est posé la question de avec quel langage le faire, et puis on avait aussi un peu envie de voir ce qui existait de nouveau depuis C++, c'est-à-dire depuis longtemps. Donc on a benchmarké du Go, on a benchmarké du Rust. Et Rust, ça nous a plu surtout par l'approche très fonctionnelle et l'approche, la capacité de gérer la mémoire, de gérer du multithreading de manière hyper efficace. Donc en gros, toute la partie vraiment dure de CraftAI est en Rust. Et maintenant, en fait, c'est un langage qui est un peu à la mode en IA. Il y a des gens, notamment à Paris, il y a les gens de Snips qui se sont fait racheter par Sonos il y a un mois, un truc comme ça. Ça a été annoncé il y a un mois, qui font de la voix, qui utilisent beaucoup Rust parce qu'ils ont des problématiques d'embarquer. Donc Rust est pour tout ce qui est tuyauterie, accès à base de données, traitement asynchrone, etc. On utilise beaucoup de JavaScript. Okay. Donc on fait le grand écart entre le truc très très typé, très très safe et JavaScript. Qui est pas du tout typé, pas du tout safe, mais
et
très
du coup,
drôle.
Sur l'aspect de données, vous utilisez la techno de données qui est fournie par votre client, ou du coup vous utilisez une certaine.
Du coup on a une mode, on développe une API, donc on a un mode fondamentalement CraftAI c'est une API HTTP auquel tu envoies tes données et tu récupères des modèles prédictifs à prix. Et donc, quand il y a des nouvelles données qui arrivent, tu récupères un modèle prédictif qui a été appris, qui a été mis à jour, et tout le bordel de mise à jour incrémentale, de validation, etc., c'est géré de manière transparente par CraftAI, par le cloud CraftAI. Donc, ça veut dire qu'on doit stocker les données qui nous sont envoyées. Alors, historiquement, on avait tout fait dans Redis, pour le coup, qui marche très bien, même pas que pour faire du cache, qui a des perfs plutôt cool. Qui a une problématique majeure, c'est que vu que c'est réfléchi comme une solution de cache moyen terme, les solutions persistantes Redis, en fait, elles sont généralement vendues chères par les fournisseurs de cloud, et à un moment, ça devenait un peu débile. Et là, du coup, on est en train de migrer sur Postgres et Timescale, qui est une extension Time Series de PostgreSQL. Ça se passe plutôt bien.
Ok. Du coup, sur tout cet aspect, en fait, quelle est la part de développement custom que vous avez à faire pour chaque client? Est-ce que du coup vos algos en fait fonctionnent de manière transparente sur tout jeu de données qui arrive? Du coup, vous devez juste faire en sorte que le jeu de données soit propre en entrée, ou vous devez quand même repenser un peu vos algos à chaque fois?
Alors les algos, donc je parlais de ce qu'on fait pour Dalkia, on bosse dans plein d'autres domaines, dans la banque, dans des domaines industriels, dans le domaine de l'énergie beaucoup, sur des cas d'utilisation qui sont assez différents. Là, par exemple, on bosse avec l'Université Paris-Dauphine sur des sujets autour de l'éducation et autour de la personnalisation des plateformes de e-learning pour chaque élève. Donc et de l'autre côté, on bosse avec Dalkia sur de la supervision de bâtiments. Mais fondamentalement, le cœur algorithmique, c'est le même. Donc, tout ce dont je t'ai parlé, là, le Rust, le JavaScript, le Craft AI, le Cloud Craft AI, c'est le même. Il y a un seul Cloud Craft AI, une seule version du logiciel. Alors après, on a la spécificité que on va créer une instance de Craft AI pour chaque client. Donc, chaque client est dans son silo avec sa base de données, ses conteneurs, son cluster Kubernetes dans lequel tournent ces trucs. Mais ça c'est générique et on n'a pas de version spécifique de quoi que ce soit. Donc comme je te disais, dans l'offre de Craft AI, quand tu deviens client de Craft AI, donc t'as accès à ça avec une infra qui va scaler et t'as accès à une équipe de data scientist qui va bosser avec toi pour faire du coup cette partie spécifique. Donc on a fait le choix en gros de créer un moteur générique mais qui est quand même assez spécialisé parce que c'est sur ces données structurées time series et du coup de pousser à l'extérieur de ce cœur algo toutes les parties spécifiques, donc de rendre possible le développement de d'IA spécifique basée sur Craft AI. Donc cette équipe de data scientist globalement bosse et co-développe avec nos clients la couche d'intégration, donc qui va faire deux choses principalement. D'abord, comme tu disais, on part des données et on génère les features, enfin les colonnes du tableau Excel qui m'intéressent, qu'on appelle des features en machine learning, on nettoie, etc. Voilà, donc la partie ingestion de données et cleaning de l'ingestion de données, ça c'est le premier truc qu'on co-développe avec nos clients. Et le deuxième, c'est ce que sort Craft AI, c'est des modèles prédictifs. On fournit des SDK qui permettent de les évaluer, donc de faire des prédictions, de faire des recommandations. Mais en fait, la valeur de ces modèles prédictifs, et notamment parce qu'ils sont explicables, c'est que on est capable de dire, on est capable de le parcourir comme une base de connaissances. En fait, on est capable de dire, le modèle, il prédit que ton stock de chips demain, ça sera 20 tonnes. Mais on est capable de dire, si demain c'était un samedi, du coup, ce serait plutôt 10 tonnes. Donc ça, c'est pas très utile parce que demain, ça pourrait pas être samedi ou alors il y a un problème temporel. Mais par contre, on peut dire, si tu augmentes le prix de tes chips, tu vas sans doute être à 25 tonnes. Et du coup, on peut extraire ces recommandations parce qu'on est capable de naviguer dans l'arbre de décision. Et donc ça, ce traitement spécifique des arbres de décision, c'est pareil, elle est co-développée entre nos équipes internes de data science et notre client. Il y a un cas d'utilisation qui est assez drôle pour illustrer ça, c'est on est intégré dans la nouvelle version de l'application de Direct Energy, Total Direct Energy, sous la forme, donc en gros ils ont, alors c'est en cours de déploiement, mais ils ont déployé des fonctionnalités de coaching énergétique dans leur application mobile, et en fait ces fonctionnalités de coaching énergétique, elles sont propulsées par Craft AI, et du coup ce qui est intéressant, c'est que du coup ils utilisent Craft AI pour apprendre des modèles prédictifs de la consommation de chacun de leurs clients. Donc en gros on a les données Linky, données de consommation énergétique, on a des données de météo, et ces flux de données-là sont utilisés pour apprendre un modèle prédictif anonymisé de la conso de ce foyer. Et ça, on fait ça foyer par foyer. Donc, en gros, on a des Direct Energy, c'est 4 millions de clients. Alors, aujourd'hui, on est déployé sur une partie de clients, mais on a tous ces flux de données-là qui remontent et on apprend un modèle prédictif par foyer. Mais ces modèles prédictifs, donc, qui prédisent la conso en fonction de l'heure de la journée, de la température extérieure, de la luminosité, etc., ils sont pas utilisés pour faire des prédictions, ils sont utilisés pour extraire les caractéristiques du comportement de chaque foyer pour générer des conseils personnalisés. Donc en fait, on allie le machine learning qui va apprendre les caractéristiques de comportement avec l'expertise métier et marketing des gens de Direct Energy qui vont dire « Ok, bah ce mec-là, quand il consomme de cette manière-là, je vais plutôt lui donner ce conseil. » Alors, toute cette partie-là, c'est une partie co-développée, je peux rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'est ça l'idée. J'ai un modèle prédictif qui dit comment le mec consomme, comment le foyer consomme, et j'ai des règles métiers qui viennent exploiter ce comment pour générer des messages personnalisés.
Ok. Alors, Donc chez Crafty AI, vous ajoutez de l'humain dans cette intelligence artificielle. Du coup, parlons humain, qui est un sujet qui me tient à cœur dans ce podcast Ideas and Dev. Comment se composent aujourd'hui les équipes chez Crafty AI?
Aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine, 22. En gros, il y a trois équipes chez Crafty AI. Il y a des gens qui font de la vente, marketing, vente, etc. Des gens qui développent le produit. Et alors, on a une approche qui est assez intéressante, je trouve. C'est comme je te disais, en fait, notre différenciant, c'est la techno. Et c'est vraiment le cœur de l'algo. Donc, en fait, on a des problématiques qui vont de la R&D fondamentale. On publie une partie de nos résultats dans des papiers académiques. Je vais à Bruxelles dans une conf à la fin du mois pour aller présenter une partie de nos travaux. Et à la fois, on ship du code qui est déployé sur AWS sur Azure sur des clusters Kubernetes et qu'on monitore. Donc on a un spectre d'intervention qui est assez large et on a eu toujours la volonté depuis le début de pas cloisonner ces trucs-là. Donc en gros, l'enjeu, c'est de pas avoir des chercheurs qui sont décorrélés de la manière dont ça va être déployé et de pas avoir des DevOps qui comprennent pas comprennent rien du tout de la partie machine learning.
D'avoir aussi des DevOps qui sont qui ont la possibilité aussi de bosser sur des trucs un petit peu innovants et de chercher les trucs et de tester et de créer.
Donc quoi. Donc on essaye vraiment d'avoir un truc qui est lab dev ops dans une seule équipe. Donc ça fait un peu des profils de princesse cosmonaute, comme j'aime bien dire, c'est comme ça fait un peu beaucoup de choses. Alors la vérité, c'est que dans l'équipe de développement, il y a des gens qui sont plutôt des chercheurs, des gens qui sont plutôt des DevOps, enfin j'aime pas dire des DevOps parce que ça ne veut rien dire être un DevOps, mais des ops qui ça fait un peu de dev. Donc voilà, chacun a sa spécialité. Dans des équipes aujourd'hui, on est pas énorme, hein, l'équipe produit c'est 8-9 personnes, on a deux squads à l'intérieur, donc chaque squad elle est multidisciplinaire. Mais du coup, qui sont capables de prendre des projets de la partie vraiment R&D fondamentale, on va faire des états de là, on fait des benchmarks, on va lire des papiers, on peut écrire des papiers, jusqu'à c'est en prod, ça fonctionne, et on a un front qui marche pour débugger tout ce truc-là. Donc ça, c'est vraiment clé dans la manière dont on s'organise. Donc ça, c'est l'équipe produit, et on a cette équipe de qu'on appelle Customer Success, enfin comme beaucoup de boîtes de SaaS, Customer Success, qui est chez nous en fait une équipe de data scientists qui bosse avec nos clients, qui sont en fait le trait d'union entre la généricité du produit et les spécificités des clients.
Et alors du coup, sur un aspect recrutement, parce que il y a assez peu de formations encore aujourd'hui qui sont dédiées à ces domaines de l'IA. Est-ce que du coup, tu tends à recruter principalement des gens qui sortent de ces quelques cursus qui existent? Est-ce que tu recrutes plutôt des gens, au contraire, expérimentés, qui ont fait certaines expériences dans ce domaine-là, ou au contraire, tu préfères prendre des juniors, qui sont tout frais sortis d'école, qui ne connaissent rien encore à tout ça, et que du coup, tu vas pouvoir façonner à la sauce Crafty AI?
Alors, on essaie d'avoir un équilibre entre junior, senior. Historiquement, là, sur les premières années de Crafty AI, vu qu'on avait une équipe initiale expérimentée, on a plutôt recruté des juniors. Là, on est en train d'équilibrer un peu les deux. Il y a quand même pas mal de formations, en fait. Si on met tout ce qui est data science, machine learning, il y a pas mal de formations. Et alors, nous, avec le point AI à la fin, etc., c'est plutôt le genre de profil qu'on attire. Donc c'est pas hyper compliqué d'attirer des gens qui ont des masters de data science ou qui ont fait des écoles d'ingénieurs avec une spécialité en machine learning ou ce genre de trucs. C'est compliqué de trouver des bons, comme dans beaucoup de domaines, parce que il y a beaucoup de formations qui se sont montées qui font vaguement trois trucs, etc. Mais bon, ça va, c'est pas si facile que ça, mais ça va. Après, sur la partie dev, c'est compliqué parce que, alors, c'est compliqué, alors je pense pas plus que chez d'autres, hein. Après, on cherche des profils qui, justement, avec ce côté pluridisciplinaire, avec ce côté je suis pas dans une case, qui excite plein de gens et qui fait peur à pas mal d'autres gens aussi. Mais voilà, sur les côtés expérimentés, là, surtout sur la partie customer success, qu'on cherche des gens en fait, qui ont un profil qui est un peu genre le consultant qui en a marre d'être vendu comme de la viande, mais qui a cette démarche-là quand même de comprendre, enfin, qui est vraiment orienté vers la partie relation client, donc qui a un socle technique hyper balèze, qui sait de quoi il parle, parce que quand on est dans une discussion avec un client, on a besoin d'être l'expert dans la pièce, donc qui a cette volonté là, mais qui aime bien le modèle, qui est aligné avec la vision du produit. Enfin, au final, nos problématiques de recrutement, elles sont assez proches de beaucoup de startups dans beaucoup de domaines.
Et du coup, votre processus de recrutement, il ressemble à quoi?
Alors, notre processus de recrutement, on met beaucoup. Alors, on a plus ou moins un processus de recrutement qui est unifié entre des profils sales ou dev, dans le sens où on a une première partie où on a des calls de fit traditionnels, vérifier que ce qu'on vend, enfin le profil qu'on cherche correspond bien à ce que le mec cherche ou la personne cherche. Et après, en fait, on aime bien d'abord tester les compétences selon nos règles du jeu. Donc, les devs ou les data scientists ont fait des types de whiteboard interview, sauf qu'on essaie de faire ça de manière très très interactive. Donc l'enjeu, c'est pas de poser une question et de regarder le mec se démerder, c'est vraiment de partir d'un petit truc et puis d'essayer de le complexifier. Des fois, on sait pas vraiment par où ça va, parce que ça peut dépendre de la personne qu'on a en face, mais vraiment d'évaluer, parce que les gens pas les connaissances en termes de librairie, d'algo, etc. des gens, mais plutôt la manière dont ils réfléchissent. Donc ça veut dire de la mise en situation, ça veut dire que le mec qui fait l'interview est là comme une espèce de ressource magique qui peut répondre à toutes les questions. Mais c'est ça qui nous intéresse. Et après, la deuxième partie du process, c'est vraiment, on donne une problématique ouverte, donc que ça soit vraiment un sales ou vraiment un data scientist, vraiment un chercheur. On lui dit, ok, ça c'est ta problématique, ton terrain de jeu, montre-nous ce que tu sais faire. Et du coup, on leur demande de faire un truc à la maison. Donc typiquement, les data scientists, si on leur donne un dataset, on leur dit « Bah voilà, t'as un dataset, fais-moi des trucs cool avec. » Les ops, par exemple, on leur donne un bout de code et on leur dit « Voilà, il y a un bout de code, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il tourne et qu'il soit scalable. » Et voilà, donc c'est ce genre de truc-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens se débrouillent avec. Alors c'est assez bizarre comme... En fait, il y a des gens qui sont très très bons techniquement, qui sont nuls à ce genre d'exercice, parce que en fait, on leur a pas donné de cadre, donc ils savent pas quoi faire, ou ils font un truc très très minimal, alors qu'on leur a dit... c'est assez rigolo, intéressant en tout cas.
Mais du coup, c'est aussi un moyen pour vous de choisir, de voir en fait ce que vous
ouais,
attendez chez vous.
C'est ça. Mais on a des... Et du coup, le dernier entretien, là, juste avant cet entretien, j'étais dans un entretien comme ça, et en fait, on apprend des trucs, parce que typiquement, les gens qui sont plus sur des postes R&D, on leur dit, ok, ça, c'est cette problématique-là générale, fais-moi un petit état de l'art, trouve-moi un papier et explique-moi comment tu le prendrais, comment tu l'adapterais pour cette problématique-là. Et les mecs, en fait, trouvent des trucs intéressants, et on a vraiment un entretien qui est un échange de bons procédés quelque part, parce que lui, il a travaillé sur quelque chose, il nous le présente, nous on lui fait des remarques, on voit que le recul qu'il a pris dessus, etc. Et c'est hyper intéressant. Je pense que la démarche, enfin nous on la trouve intéressante. Après, elle est déconcertante, je pense, pour beaucoup de candidats. Mais je préfère ça à dire vas-y, tiens, c'est un lien coding games et va me faire 10 000 lignes de Java, ça va être vraiment trop, trop intéressant. Ouais.
Je comprends effectivement la valeur du process. Pour conclure sur cet échange, tu nous as dit en début d'échange que tout ce qui était IA, c'était tout ce qui n'avait pas encore été mis en prod, tout ce qui a été tout ce qui n'était pas encore industriel. Donc du coup, pour toi, tout ce qui est machine learning, dans combien de temps ça ne sera plus l'IA? Et en combien de temps Craft AI ne sera plus le dire?
En combien de temps on s'autodétruit et on est obligé d'enlever le AI? Ça dépend des cas d'utilisation. La vérité, c'est qu'il y a déjà plein de machine learning qui est... tout ce qu'on appelle de la segmentation marketing, des trucs qui sont sur Google Analytics, derrière, c'est en partie des technos de machine learning et c'est masqué aujourd'hui et c'est en prod. Nous, dans le domaine de l'énergie, qui est un des domaines qui nous intéresse, le domaine industriel, c'est pas encore très mature parce que les données ont mis du temps à arriver, parce que les problématiques sont différentes. Ça dépend vraiment, je pense, sur nos domaines. Aujourd'hui, on met des trucs en prod, on a des clients, on génère des dizaines de milliers de modèles par mois. C'est faisable et c'est plus un challenge de gouvernance et d'organisation de nos clients. Je sais pas trop. Sur les sujets sur lesquels on est aujourd'hui, on met en prod de l'IA, donc si on applique à la lettre ma définition, on n'est déjà plus craft AI. Après, ce côté R&D aussi nous pousse à pousser le bouchon plus loin que ce côté machine learning. C'est des choses qui nous intéressent. On bosse avec des labos à droite à gauche pour aller un peu plus loin que ça. Mais je pense qu'on est sur le point d'être capable de mettre en production, en tout cas au niveau de l'entreprise, d'avoir des manières de traiter l'information, de traiter les données qui utilisent ces techniques d'IA et on est à des années, mais pas des dizaines d'années, que ça soit vraiment généralisé partout.
Ok. Merci beaucoup, Claude-Éric. Une dernière question rituelle de chez FTTD. On a eu un aperçu de ta réponse en début d'enregistrement, mais du coup, tu es plutôt tabulation ou espace ?
Alors, je suis plutôt personnellement espace, mais en fait, je pense que c'est nul et non avenu comme problématique et qu'en fait, ça devrait être automatique. Moi, je suis un utilisateur de prettier en JavaScript et je pense que c'est ça la solution. Je pense que la solution, c'est on s'en fout.
C'est ça. Très bonne réponse. Merci beaucoup, Claude-Éric, pour cet échange. Merci à tous de nous écouter chaque semaine. J'espère que cet épisode vous aura autant intéressé que les précédents. Merci à tous de partager ce podcast. N'hésitez pas à continuer à nous rajouter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide à remonter dans les classements et à continuer à diffuser ce message. Continuez à en parler aussi lors d'une code review ou lors d'un daily stand-up. Je pense que ça peut aussi favoriser la propagation de ce podcast. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev. Merci à Elsa, Jacques et Laurent à la production de cet épisode. Et merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une code review en nous laissant, si possible, 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Après tout, chacun sa techno. If This Then Dev ou Bibir, B-I-B-E-A-R. Et vous retrouverez tous les épisodes sur notre site ifttd.io. If This Then Dev est rendu possible par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale.